Fidèles téléspectateurs, bienvenue à l'émission MAG Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Bonjour, nous sommes heureuses de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet sur MAG Emploi. Nous allons parler aujourd'hui de la conduite du changement organisationnel dans le milieu professionnel. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Ibrahim Amoro Keïta. Bonjour M. Keïta.
Bonjour madame.
J'espère que vous allez bien.
Très bien, Dieu merci.
C'est un plaisir de vous recevoir pour la seconde fois sur l'émission MAG Emploi.
Plaisir partagé.
Donc, Monsieur Ibrahim Amoro Keïta est docteur en sciences de gestion, spécialiste en management des organisations, RSE et conduite du changement dans les organisations.
C'est bien ça.
D'accord. C'est pourquoi nous vous avons invité aujourd'hui pour parler de la conduite du changement organisationnel dans le milieu professionnel. C'est quoi la conduite du changement organisationnel en entreprise?
Merci, Madame Sandrine, pour cette question. Pour parler de changement organisationnel en entreprise, il serait très difficile de parler de ça sans parler de la notion d'équipe.
D'accord.
Parce que qui parle d'entreprise, mm-hmm. on parle des hommes. Donc, quand on parle de l'équipe, c'est un ensemble de personnes qui travaillent ensemble dans une dynamique avec des principes et des règles. Maintenant, quand on parle du changement organisationnel, ce changement, c'est cette modification, c'est cette évolution que les entreprises essaient de mettre en pratique pour quitter d'une situation qui est jugée obsolète vers une autre situation qui est vraiment sur laquelle situation est fonde de l'espoir. Voilà, donc ça veut dire que c'est le fait pour l'entreprise de quitter une situation A vers une situation B.
D'accord.
Voilà.
Okay. Mais pourquoi est-ce que ce changement-là est important, le changement organisationnel?
Très bien. Bon. Parler du changement organisationnel et de son importance, vous savez que nous sommes dans un environnement qui est toujours en mutation. Donc l'environnement évolue.
Oui.
Si on n'évolue pas avec l'environnement, ça veut dire qu'on est appelé à disparaître.
Mm-hmm.
Donc, l'importance du changement, c'est d'amener les organisations à évoluer avec l'évolution technologique, avec l'évolution des stratégies, avec l'évolution de la concurrence. Donc, le changement permet aux entreprises vraiment de suivre le rythme de l'évolution et afin de pérenniser la vie de l'entreprise, afin de pérenniser la performance des entreprises.
D'accord. Que peuvent être les facteurs du changement organisationnel?
Bien, vous savez, quand on parle du changement organisationnel, il peut se focaliser sur plusieurs facteurs. Nous avons ce qu'on appelle des facteurs internes sur lesquels le changement peut porter. Nous avons aussi les facteurs externes.
Okay.
Maintenant, quand on parle des facteurs internes, c'est tout ce qui concerne les ressources et les emplois de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Il s'agit des ressources humaines, il s'agit des ressources techniques, des ressources stratégiques. Donc, le fait que l'entreprise peut-être peut constater et peut faire un constat par rapport à un dysfonctionnement. L'entreprise peut faire un constat par rapport à un mauvais résultat. Donc pour ce faire, ça va entraîner pour l'entreprise ce qu'on appelle une situation de mener un diagnostic, une analyse, pour voir qu'est-ce qui est à la base de ce problème. Maintenant, une fois ce diagnostic élaboré, l'entreprise va voir maintenant qu'est-ce qui a lieu de faire. Et c'est ce qui va maintenant entraîner ce qu'on appelle le processus de changement.
D'accord.
Donc, à ce niveau, l'entreprise va voir est-ce que le blocage se situe au niveau des ressources humaines.
D'accord.
Si c'est au niveau des ressources humaines, elle va voir sur quel point au niveau des ressources humaines. Est-ce qu'il y a un problème de formation? Est-ce qu'il y a un problème d'adéquation? Donc, à ce niveau, l'entreprise va essayer d'apporter des mesures correctives. Ça, c'est sur des facteurs internes.
Okay.
Mais par exemple, sur des facteurs externes, comme par exemple l'évolution des règlements au sein des pays. Par exemple, une loi peut être peut-être prise au niveau de l'État. Donc, ça va forcément peut-être jouer sur l'évolution de l'entreprise. Donc, elle est obligée de suivre l'évolution, cette évolution réglementaire.
Okay.
Donc, là aussi, ça, c'est sur des facteurs externes.
Externe.
Mais ça peut porter sur plusieurs autres facteurs.
D'accord. Mais à quel moment ce changement peut-il intervenir dans le milieu professionnel?
Voilà, donc comme on vient de le dire, vous savez, le changement peut intervenir en fonction de plusieurs situations. Soit sur la base, par exemple, d'un constat, Par exemple, si l'entreprise va voir au niveau de mon entourage, la concurrence peut-être a évolué. La concurrence a fait ce qu'on appelle des modifications.
D'accord.
La concurrence a évolué. Moi aussi, si je n'évolue pas, logiquement, les clients vont me fuir vers la concurrence. Donc, l'entreprise va peut-être, en fonction de ce constat, voir les évolutions au niveau de la concurrence. Elle va se dire, bon, il faut que moi aussi, j'évolue. Donc, ça, c'est au niveau du constat, par exemple, de la concurrence. Mais l'entreprise peut être confrontée aussi à une situation de crise.
D'accord.
Par exemple, s'il y a une situation de crise, l'entreprise peut se voir obligée de changer parce que cette situation entraîne, impose ce qu'on appelle le changement. Donc, l'entreprise peut changer en fonction de plusieurs situations. Parce que là, nous avons parlé de la situation de crise. Il y a aussi, comment on appelle, la concurrence. Mais aussi, l'entreprise peut changer en fonction même de l'évolution technologique. Par exemple, au niveau de la technologie, si les concurrents évoluent avec la technologie, la dernière technologie, si l'entreprise veut rester à sa place ou encore elle ne veut pas bouger, elle ne veut pas évoluer, logiquement, elle sera obsolète et elle va disparaître. Donc, l'entreprise peut entamer ce qu'on appelle le processus de changement organisationnel dans plusieurs situations.
D'accord. Quels sont les outils pour accompagner un changement organisationnel ?
Bien. Donc, pour accompagner un changement organisationnel, vous savez, quand on parle de l'accompagnement du changement organisationnel, en réalité, ce n'est pas le changement qu'on accompagne, mais ce sont des hommes qu'on accompagne dans le processus de changement.
D'accord.
Parce que vous savez, le changement, c'est un facteur qui est d'office considéré comme un facteur qui fait peur. Mm-hmm. Le changement, ça fait peur parce que ce sont des hommes qui sont appelés à changer. Donc, et l'homme de nature, dès que l'homme effectue une activité, il se crée ce qu'on appelle une situation de confort. Donc, le faire sortir de cette zone de confort, là, il va voir qu'est-ce qu'il attend. Donc, ça engendre ce qu'on appelle une peur. Donc, l'homme a tendance à résister à ce changement-là. Donc, c'est pour cela, pour accompagner ce changement, ou encore pour accompagner les hommes dans ce changement, il faut d'abord une bonne communication. D'abord, l'information. Il faut informer les hommes par rapport au changement, par rapport à la situation actuelle, par rapport à ce qui a entraîné le changement et par rapport à ce qui attend tout un chacun. Donc, après cette information, il faut maintenant voir pour sensibiliser les hommes à accepter le processus, pour dire que ce n'est dirigé contre qui que ce soit, mais que c'est un processus qui est mis en place pour le bien-être de l'entreprise, pour le bien-être de tout le monde.
D'accord.
Donc, après cette phase de sensibilisation, maintenant, il y a ce qu'on appelle cette phase maintenant, de mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, il faut accepter que les uns et les autres fassent ce qu'on appelle des erreurs. C'est pour cela qu'il y a la formation aussi qui accompagne la sensibilisation. Il faut former les uns et les autres. Ils vont commettre des erreurs au début, mais au fur et à mesure qu'on évolue, ils vont s'adapter et le train va marcher.
Ok, d'accord. Donc, ce que vous venez de donner, ça, ce sont les étapes même du changement.
Voilà.
Ce sont les étapes clés de la conduite du changement.
Justement, d'accord. Justement.
Maintenant, quels peuvent être les avantages liés à un changement organisationnel ?
Bien. Donc, comment l'ancien président Churchill nous a toujours dit, il dit de prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Voilà, donc ça veut dire que le changement, il n'y a rien de permanent dans la vie courante, il n'y a rien de permanent sauf le changement. Sauf le changement. C'est le changement qui est permanent parce que l'environnement est permanemment en mutation. Et dès que l'environnement est permanemment en mutation, logiquement, on est toujours en mutation avec l'environnement. Donc vraiment, les avantages n'en finissent pas. Mais pour les organisations, c'est d'abord ce qu'on appelle l'amélioration continue. Le changement permet à l'organisation de s'améliorer continuellement. Le changement permet à l'organisation vraiment d'atteindre ce qu'on appelle la performance globale. Et quand on parle de la performance globale, dans cette performance globale, nous avons plusieurs types de performances, notamment la performance sociale qui concerne le bien-être des hommes. Nous avons ce qu'on appelle la performance financière qui concerne la capacité d'autofinancement de l'entreprise. Nous avons aussi ce qu'on appelle la performance organisationnelle qui concerne l'administration, le fonctionnement général de l'entreprise. Donc, le changement vraiment permet à l'entreprise de s'améliorer continuellement et d'atteindre la performance qui est recherchée par toute organisation.
Ok. Mais quels peuvent être les risques liés au changement? C'est vrai qu'il y a des avantages, mais il y a aussi des risques. Quels peuvent être les risques de changement organisationnel pour l'entreprise aussi et pour les employés?
C'est logique, parce que quand on parle de risque, le changement n'est pas sans risque. Le premier risque du changement, c'est d'avoir la résistance. Parce que la résistance au changement, c'est un facteur naturel. Parce que c'est, comme on l'a dit, dès qu'on veut faire sortir l'homme de sa zone de confort, il va résister. Donc s'il résiste, il peut peut-être manifester ce qu'on appelle une mauvaise foi. S'il ne comprend pas le changement, si le changement n'est pas bien expliqué, l'homme peut manifester ce qu'on appelle une mauvaise foi. Et dès que l'homme manifeste une mauvaise foi, il va employer beaucoup de termes. Souvent, on n'est pas intéressé par le changement. Soit il va se dire, le changement, oui, c'est bon, mais ce n'est pas adapté à notre contexte. Donc, il va résister. Maintenant, l'un des premiers risques, c'est le fait que les gens résistent. Mais une fois qu'ils résistent, il y a aussi ce qu'on appelle des outils pour vraiment évaluer cette résistance ou encore ces résistances afin de les amener à accepter le changement. Donc, un autre risque, c'est que si le changement est communiqué par la mauvaise personne, ça peut entraîner ce qu'on appelle l'effet contraire de ce qui est recherché. Parce que pour passer le message du changement, il faut que ça soit une personne, la personne adaptée. La personne adaptée, ce n'est pas peut-être le directeur général de l'entreprise, ce n'est pas le promoteur de l'entreprise, mais ça peut être un salarié de l'entreprise qui est respecté par tout le monde, qui est écouté par tout le monde. Lui, il peut porter le message du changement. S'il porte le message du changement, ça peut réduire le risque d'échec de la conduite du changement. Parce que les gens le respectent, les gens l'écoutent avec son accompagnement. Les gens peuvent accepter, ils peuvent chercher à comprendre et ils peuvent s'adapter. Donc vraiment, le risque... Il y a plusieurs risques, mais ces risques-là ne sont pas insurmontables. Okay. Ce ne sont pas des risques qui sont insurmontables. Mais logiquement, il faut comprendre les hommes dans ce processus de changement. C'est beaucoup plus la peur, c'est beaucoup plus le manque de compréhension du changement qui fait que, parce qu'ils ont, peur de perdre peut-être leur pouvoir, ils ont peur de partager des informations, ils ont peur, par exemple, d'être remplacés, ils ont peur quand même de perdre leurs privilèges. Maintenant, pour les rassurer, pour éviter le risque, il faut vraiment les sensibiliser, les informer, les former. Et puis, ils vont accepter et ils vont suivre le train.
D'accord. Quel est le rôle du manager dans la conduite du changement organisationnel?
Bien, le manager joue un rôle très important. Parce que quand on parle d'une organisation, d'abord, l'une des personnes clés ou l'une des ressources clés, c'est le manager. Parce que la réussite et l'échec, comme on vient de le dire, la réussite et l'échec de la conduite du changement dépend du manager. Okay. Parce que si le manager veut tout contrôler, s'il veut prendre le processus du changement de long en large, parce qu'il s'est dit que c'est lui le manager, c'est lui qui est habilité à mettre en place le processus, ça peut vraiment donner ce qui n'est pas recherché. Donc le rôle du manager, c'est vraiment de sensibiliser son personnel à la compréhension du changement, à l'importance du changement, d'abord pour les salariés, mais à l'importance générale de ce processus de changement. Mais aussi, le manager doit accompagner les salariés dans le processus du changement.
D'accord.
Donc, leur accompagnement, ça peut être des accompagnements financiers, ça peut être des accompagnements psychologiques, ça peut être des accompagnements moraux. Mais il faut que les salariés soient rassurés que le manager est là, il les appuie, il les suit et ils vont vraiment accepter ce processus.
D'accord. Merci beaucoup, M. Keïta, d'avoir répondu à ces questions. Nous allons passer maintenant à la question de la semaine. Ok, M. Keïta, la question de la semaine a été posée par Mademoiselle Bafadima. Il pose la question de savoir, est-ce qu'un changement organisationnel est-il toujours voulu ou non voulu?
Au fait, le changement organisationnel peut être voulu. Okay. Mais ça peut ne pas être voulu.
C'est pour cela que je parle. Ça peut s'imposer aussi.
Ça peut s'imposer. Parce que le changement, ça peut vraiment être un changement voulu et adaptatif. C'est ce qu'on appelle généralement les changements construits. Mais il peut y avoir le changement de crise. Okay. Maintenant, par exemple, si nous prenons l'exemple sur la maladie à coronavirus, c'est une maladie qui s'est imposée à tout le monde. Et les gens ont changé en fonction de la situation. Maintenant, on n'avait pas le choix. Il fallait changer parce qu'il y a une situation de crise qui est là. Donc, dans ce processus de changement, vous voyez que ça va s'imposer. Ouais. Qu'on le veuille ou pas, la situation de crise fait qu'on est obligé de changer. Maintenant, il peut y avoir aussi des cas d'accident de travail. Il peut y avoir des cas de décès. L'entreprise ou l'organisation ne va pas s'arrêter parce qu'il y a un ennemi, même le propriétaire d'une entreprise, parce qu'il est décédé, l'entreprise ne va pas s'arrêter. Ouais. L'entreprise doit fonctionner. Donc, en cas, par exemple, de décès, par exemple, du propriétaire d'une entreprise, il faut qu'elle fonctionne. Maintenant, on va changer, même si le changement n'est pas voulu, mais ça s'impose quand même qu'il y ait un changement et que pour que l'entreprise continue. Donc, ça peut vraiment être voulu, un changement construit. On essaie de voir la situation de l'entreprise, on voit la nécessité de changer et on change.
D'accord.
Mais ça peut être aussi imposé.
D'accord. Merci beaucoup, M. Keïta, d'avoir répondu à la question de Bad Fatima. Passons maintenant à l'instant Mali Bara avec Aissata Keïta. Bonjour Aissata.
Bonjour Sandrine.
Tu vas bien?
Oui, bien. Et toi?
Je vais très bien, merci.
Super.
Ok, donc aujourd'hui, on va parler de quoi dans l'instant Mali Bara?
Alors, aujourd'hui, comme instant Mali Bara, nous allons vous parler de comment gérer la pression au travail. Alors, pour cela, la première des astuces, définissez clairement vos objectifs. La première étape consiste à faire une liste de l'ensemble de vos objectifs, ce qui va vous permettre de rester sur la ligne, de ne pas vous perdre. Et vous pourrez toujours y retourner lorsque vous sentirez la pression augmenter. Le but est de savoir où vous voulez aller et pour quelles raisons. Deuxième astuce pour le thème d'aujourd'hui, gérez l'ordre de vos priorités. Une fois la liste de vos objectifs établie, vous devez maintenant prioriser vos tâches. Vous pouvez numéroter vos tâches selon leur ordre d'urgence, ce qui va vous permettre de vous concentrer d'abord sur les tâches cruciales pour l'atteinte de vos objectifs. Cette technique vous permettra d'atteindre les résultats souhaités de façon plus efficace. Troisième astuce pour le thème d'aujourd'hui, restez motivé et optimiste. La motivation et l'optimisme sont deux facteurs de réussite et de succès. Ils sont également des sources d'énergie qui vous permettront de suivre ou de ne pas suivre une action. La motivation et l'optimisme doivent être des désirs pour l'atteinte de vos objectifs visés. Dernière astuce pour le thème d'aujourd'hui, ajustez vos objectifs au fur et à mesure que vous avancez. Il est également important de faire des ajustements de façon irrégulière dans l'avancement de vos projets. Pour cela, vous pouvez vous poser des questions, à savoir est-ce que vous respectez la durée, est-ce que vous avez besoin de plus ou moins de temps, est-ce que les sous-objectifs vous permettront d'atteindre les objectifs finaux. Notez bien, lorsque vous fixez des objectifs, il est également important de penser à vous récompenser à chaque fois que vous prenez un pas vers vos objectifs. Ceci met fin à notre rubrique de la semaine. On se dit à la fois prochaine pour un nouveau thème Instant Mali Bara.
Merci beaucoup, Aissata. Monsieur Keïta.
Madame Sandrine.
Nous sommes à la fin de l'émission.
Ok.
Je pense que nous avons fait le tour.
Justement.
De la conduite du changement organisationnel.
C'est ça.
Et tout ce qui a été dit, je pense que ça peut également aussi servir à certaines personnes. Que ce soit même le plus petit des entreprises.
C'est ça.
Voilà. Donc, j'espère que les gens sauront aussi utiliser. J'espère que les gens sauront utiliser ces différents conseils que vous venez de donner.
Bien sûr.
Vous leur permettre de faciliter la tâche même dans la gestion quotidienne de leur structure.
C'est ça.
Donc, M. Keïta, je ne sais pas si vous avez un mot de fin.
Bien. C'est toujours les mots de remerciement. Et je ne saurais vraiment clôturer cette émission sans peut-être évoquer l'adage de celui qui m'a vraiment montré le chemin de la conduite du changement. Il s'agit de mon professeur, le professeur Zachary Yaoukaka, qui nous a toujours dit que le changement brusque, même du régime alimentaire, crée de l'indigestion. Donc ça veut dire que le changement doit être accompagné. Donc vraiment, mes mots de remerciement à votre endroit, Madame Sandrine, Madame Aïcha, et à mes professeurs, à mes collaborateurs, à mes collègues et à tout le personnel de l'EVA TV.
Ok, et nous en contrepartie, on vous remercie d'avoir accepté, parce que c'est pas évident, d'avoir accepté d'être sur ce numéro de MAG Emploi. Merci aussi de nous faire bénéficier aussi de vos connaissances. Mm-hmm. Merci beaucoup à vous.
Merci, merci Aïssata.
Merci Sandrine.
Merci d'avoir animé cette chronique d'Instant Malibara. Mm-hmm. Merci à, aussi à nos téléspectateurs, vous qui nous suivez chaque mercredi à partir de 20h. Merci à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire cette émission. Nous vous rappelons que Mag en place est l'émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.